fait un mixte de la séance 3 et de la séance 4. Alors, normalement, ce cours que je donne là, nous le donnons aux parents sur 4 semaines, à raison de 2h30 par semaine. Ça laisse le temps de bien assimiler, de bien comprendre et de retravailler, parce qu'il y a un support aussi. Et là, bon, c'est comme le temps est un peu court, voilà, on s'est un peu raccourci. Si nous voulons un peu revenir en arrière et dire, raconter ce que nous avons dit depuis 2 jours. Allez, des idées importantes que vous avez retenues, ce seraient lesquelles ? La relation. Oui, parce que la relation permet de parler de tous les sujets. Sans relation, on ne peut pas parler de sujets. Vous, en famille, avec votre conjoint, si vous avez quelque chose d'important à dire et que la relation n'est pas satisfaisante pour les deux, ça ne passera pas. Il faut d'abord réparer la relation. Ok, d'accord, la relation. La mémoire. Par rapport à quoi la mémoire ? Oui, la mémoire. La mémoire, donc j'avais de façon analogique, de façon imagée, je disais c'est une feuille blanche divisée en deux. Et tout a été enregistré, soit dans le côté du plaisir, soit du côté de la souffrance. Et ça a été organisé comment ? Par intensité, soit de plaisir, soit de souffrance. Donc, quand il y a quelque chose qui nous a fait très plaisir, ça va être en top. Et si c'est la drogue qui nous a fait très plaisir, ça sera là. Et c'est là le drame, en fin de compte. Donc, on comprend maintenant que dire à des jeunes, la drogue, c'est pas bon, ça n'a pas de sens, parce que la drogue, ça fait très plaisir. Tellement plaisir que le cerveau n'est pas capable de supporter autant de plaisir. Et que quand il y a eu tellement de plaisir, le plaisir légitime que nous pouvons avoir dans la relation, vas-y, c'est plate. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de saveur. Tout ce qu'on veut, c'est là, ce que j'ai goûté là. Ok. Quoi d'autre ? L'écoute, l'importance de l'écoute. Ça, c'était hier davantage, n'est-ce pas ? Là, c'était le côté davantage hier sur l'éducation des enfants, sur l'accompagnement, sur... ok ? Par rapport à hier, qu'est-ce qu'on... quelque chose d'autre ? Absolument, absolument. Les émotions sont là, elles sont très importantes, mais il faut savoir les gérer. Et la gestion des émotions, elle commence d'abord par des croyances qui sont justes. La pensée, et en fin de compte, nous-mêmes, nous sommes très sollicités au niveau de la pensée. C'est pour ça qu'il est important de penser juste. L'Évangile dit, le Seigneur dit, la vérité vous libère, vous affranchit. C'est-à-dire quoi ? C'est quand vous pensez juste, vrai, ça vous libère. Parce que si vous pensez, parce que les émotions suivent toujours la pensée. Donc, je disais hier, c'était la locomotive. Et après, les émotions suivent ces pensées. Mais si on met les émotions à l'envers... Là, on est mal parti. Hein. Ok ? Quoi d'autre ? Peut-être encore une chose ou l'autre pour hier ? L'empathie ? C'est de reconnaître la souffrance. C'est de reconnaître la souffrance. Faites l'expérience. Ça vaut la peine. On avait parlé de quelque chose de très important aussi hier. L'image de l'autre, l'image de soi. L'image de soi, en un mot, c'est la somme des regards qui ont été portés sur moi depuis que je suis tout petit jusqu'à maintenant. C'est cette somme de regards. Donc, ce sont les regards des autres qui me font ma personnalité dans un sens. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où le regard des autres, ça me gave tellement, je n'en peux plus. Je vais décider quoi? Qu'est-ce qui peut nous libérer du regard négatif qui ont été sur moi depuis toujours? Un autre regard. Et en l'occurrence, le regard de Dieu. Parce que lui, il est légitime pour me dire qui je suis. Alors que les autres peuvent se tromper. Est-ce qu'on est clair là-dessus? OK? Et finalement, on avait parlé de quatre types différents d'éducation. On ne va pas les reprendre. Mais il est beaucoup question de relations, de cadres, de règles, de limites. Et l'important à se souvenir, c'est l'amour que je peux avoir pour mes enfants me demande de mettre des limites et un cadre, mais sans oublier que la famille, la cellule familiale est une cellule vivante qui évolue et donc le cadre doit aussi changer avec le temps. Et même moi, j'évolue. Même moi, je change. N'est-ce pas? Et même nos enfants changent aussi. Alors, on y va. On y va sur cette séance 3 et 4. Il y a des choses qui sont... on va aller un peu plus vite sur certaines choses, on va se calmer sur d'autres choses. Une société de consommation qui nous rend de plus en plus compulsifs, on va voir pourquoi, et puis ces messages de notre société sur les substances psychoactives. Alors voilà, c'est vrai, nous sommes les cibles des médias, et les médias ont un seul but, c'est quoi? Un but ouvert, c'est quoi? Il y a d'autres buts cachés. Consommation. La télévision, la publicité, le marketing, mais n'oublions pas que c'est pas que les adultes, ce sont nos enfants. Alors, les enfants ont combien d'écrans à leur disposition? Le téléphone, attendez, je suis en train de réfléchir là que je dois couper ici. Voilà. Excusez-moi. Mais il m'est déjà arrivé que des gens m'appellent pendant une conférence. Et c'est très gênant. Combien nos enfants ont-ils d'écrans à leur disposition? Comptons. La télévision? L'ordinateur? Le cellulaire? Des écrans. La PlayStation. C'est peut-être la télévision. Ils ont aussi les films, les vidéos, quoi. On pourrait dire environ 5. Je crois que j'en avais compté 7 à un moment donné. Et c'est assez effarant. Alors, tout ce qu'on doit retenir de ça, c'est que ce ne sont pas seulement des messages qui sortent, ce sont des messages qui entrent et qui vont, en fin de compte, nourrir les choix de nos enfants. Et, par exemple, mange, achète, consomme, ressemble à quelqu'un. Quelle est ta star? Quelle est ton idole? Ça, c'est bombardé. Et je trouve, enfin, moi, j'ai un petit peu regardé la télévision, là, au Canada, mais je trouve que... c'est un peu à la mode américaine où les films sont coupés très souvent et y a de la pub constamment. Alors que chez nous, il y a même une chaîne où il n'y a plus de pub, une chaîne publique, quoi. Hein. Et donc, on est bombardé constamment. Et je trouve que c'est très long. Voilà, c'est ce que nous recevons, nous, mais nos enfants aussi, n'oublions pas. Et toutes ces choses-là, c'est constamment. Et regardez à droite, là, il y a notamment de l'alcool, ici, des choses qui, en fin de compte... Ah oui, il y a aussi le MP3, n'est-ce pas ? Ça, c'est aussi fait partie aussi des écrans. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on leur dit à nos jeunes ? C'est « deviens une star ». Il y a aussi toutes ces émissions de télévision où quelqu'un qui n'est pas connu peut se faire connaître, vous connaissez ça. Sois toi-même ton propre héros, tu vas faire des jaloux, donc toi tu es très important. Alors on dirait que vraiment c'est de la bonne image de soi. Mais non, 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 ce sont les médias qui nous disent ça, avec des intentions derrière. Gagne à tous les coups, et c'est toi le boss. Le boss de quoi ? Du portefeuille de papa. Et les médias ont bien compris ça. Ont bien compris que les jeunes ont un pouvoir d'achat, un très important, donc ça devient une cible de marketing. Parce qu'ils savent comment faire ouvrir le portefeuille de papa. Ils sont très forts là-dedans. Regardez comment une idée commence. Les messages qui sont répétés, la récurrence dans ces messages, le harcèlement dans ces messages, les messages qui sont répétés. Par exemple, oh là là, le MP3, c'est la liberté. Maintenant, c'est quoi ? C'est le iPhone ou bien c'est le iPod, hein ? Ou c'est le iPad, ou voilà. Enfin, voilà, c'est ça la liberté. Ça, c'est le must. Il faut l'avoir. Tu veux être heureux ? Ou heureuse, tu dois l'avoir. Et c'est répété. Ces messages donnés se transforment en pensée. C'est-à-dire que c'est intégré dans la pensée. Et, ah tiens, si j'avais un lecteur MP3 ou un iPod, je pourrais alors écouter de la musique en allant à l'école. Ça serait trop cool. J'ai super envie d'avoir un lecteur MP3 portable. Ça, c'est déjà maintenant dans la pensée. Et cette pensée va devenir une croyance. Vous comprenez la différence ? Toutes nos pensées ne sont pas des croyances. Moi, il m'arrive de voir des bateaux, j'aime beaucoup la voile. Les bateaux à voile. Et j'admire les bateaux à voile. Et je me dis, oh, j'aimerais bien avoir un bateau à voile. Est-ce que c'est une croyance ? Non, c'est une pensée. Et la pensée, je la prends ou je ne la prends pas. Vous comprenez ? Nous maîtrisons nos pensées, nous acceptons ou nous refusons les pensées. À ce niveau-là, ça devient une croyance. Mes copines en ont toutes un. J'en ai besoin, je ne peux plus vivre sans. Ça, c'est la croyance. C'est devenu maintenant partie de cette jeune fille. Et là, ça va amener un état d'esprit. Donc on recommence. Les messages sont répétés plusieurs fois, transforment en pensée, qui se transforme en croyance, qui amène un état d'esprit et qui peut être assez fébrile. Je suis frustré de ne pas encore l'avoir. Je ne serai heureux que lorsque je l'aurai acheté. Ça fait du sens ? Et puis finalement, le désir est là. Et il va pousser à faire un choix. Et voilà, et maintenant il dit, ça y est, j'ai enfin acheté mon MP3 portable. C'est le désir là. Est-ce que, vous voyez où il est placé le désir ? Il est là. Est-ce qu'il va encore être là ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour tuer le désir chez nos enfants ? Si on voulait tuer le désir chez nos enfants, je parle à l'envers là, je parle en Si on voulait tuer le désir chez nos enfants, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Coupe. Non, écoute bien ce que je veux dire. Oui, 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 bien sûr. Si tu coupes les messages, il ne va pas avoir la connaissance de ces choses. C'est une chose, mais tu ne peux pas couper les messages. Puisque tu ne peux pas suivre tes enfants partout. Ils ont 12 ans, ils ont 10 ans, ils ont, tu vois. Et donc, forcément, les messages viennent de tous les côtés. Mais je suis en train de répéter ma question. Vous avez des enfants. Comment est-ce que, si vous voulez casser le désir chez vos enfants, on fait comment? On achète tout. Tout et tout de suite. Tout et tout de suite. Ah oui, mais non, mais c'est exactement ça. Quand nos parents, quand nos parents, allez-y, vous vouliez dire quoi? Non, mais quand nos parents, nous, on était dans les magasins, et puis on disait, tu m'achètes ça. Et nos parents, non. On est venu faire des courses, c'est pour manger, tu n'auras pas ça. Ou bien non, tu attendras ton anniversaire, ou tu attendras Noël, ou tu... Voilà. Ça. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de construire le désir, n'est-ce pas? Et tuer le désir des enfants, donner-leur tout ce qu'ils veulent, tout de suite. Et le désir n'est plus là. Mais ici, on voit que les messages répétés se transforment en pensée, qui se forment une croyance, et qui amène un état d'esprit, finalement, va pousser le jeune à faire des choix. Et alors, la cible des... les managers, les médias ont bien compris où était le point sensible, le point névralgique. C'est notre cerveau. Nous sommes tous les jours bombardés de messages pour exciter notre désir. Le neuromarketing, c'est cette science qui étudie le cerveau pour savoir où est-ce qu'il faut appuyer pour que la personne achète. C'est ça que ça veut dire. Les neuromarketing comprennent la clé de nos choix pour mieux vendre. Et la publicité, écoutez bien ça, ne vend plus un produit, mais l'émotion que procurerait la consommation du produit. C'est fort, mais regardez les pubs des voitures. Regardez ça. Il y avait une pub très, très difficile en France, il n'y a pas très longtemps, où le père devait acheter une voiture. Donc, on voit le père qui monte dans les escaliers, la famille qui dans la maison, et qui descend pour aller voir la voiture que le père a achetée. Et devant la maison, il y avait une voiture magnifique, une Renault, voilà, toute neuve et tout ça. Et toute la famille est autour de la voiture en admiration et tout ça. Et le père dit, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et c'est ça, c'était une vieille voiture d'occasion, toute pourrie, quoi. Et en fin de compte, toute la pub montrait, alors il y avait sûr, toute la famille était tellement déçue et on voyait que le père était comme le pauvre type, quoi. Mais c'est l'émotion qui avait été mise en avant. Ça montrait quoi aussi? Là, c'était pour moi, j'ai bien analysé ça à cause de mon travail. Voilà comment on casse les pères aussi. Lui, il aurait bien voulu acheter ça, sauf qu'il n'a pas les moyens de l'acheter, donc il a acheté une autre voiture. Et là, il ne répondait pas au désir, donc c'était un pauvre type. Mais donc, c'est l'émotion que procure la consommation du produit. L'objectif, eh bien, on va fidéliser, on va engager un client sur des années. On connaît ça avec les forfaits, en tout cas chez nous en France, avec les forfaits des cellulaires. Alors, voilà. Les clés qui poussent à consommer, le désir, les perspectives d'autogratification, tout ce qui va vous mettre en avant, les messages répétés, c'est ce qu'on appelle le facteur harcèlement. C'est pas une fois, c'est constamment, plusieurs fois. La peur, l'angoisse, ils jouent là-dessus, les fausses croyances sur ce qu'est la liberté et le bonheur. Et ça serait intéressant d'en parler avec... C'est quoi la liberté? Et c'est quoi le bonheur? Parce qu'on nous a fait croire que le bonheur, c'était avoir, posséder. C'est pas juste, évidemment. C'est le pouvoir, c'est pas juste non plus. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? Question. Avoir la liberté de dire « j'en ai pas besoin ». Tout à fait. Oui, mais c'est de pouvoir dire « oui, c'est bien, mais je ne l'achète pas ». Je suis libre. Je ne suis pas pris. Je ne me laisse pas prendre. Absolument. Faire des choix. Et la liberté ultime, est-ce qu'elle existe? C.S. Lewis, un philosophe chrétien d'Angleterre du XXe siècle, a dit ceci. La seule liberté qu'un homme puisse avoir, c'est de choisir son Dieu. La seule liberté qu'un homme puisse avoir, c'est de choisir son Dieu. De toute façon, si on ne choisit pas l'un, on choisit l'autre. Et ça, on retrouve ça dans l'Épître aux Galates, pour ceux qui lisent la Bible. Et je vais vous donner ce verset-là. L'Épître aux Galates, au chapitre 4, au verset 9, il est dit, « Mais maintenant, ayant connu Dieu, c'est-à-dire le Dieu créateur, excusez-moi. Verset 8. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, n'étaient pas Dieu. Petit d. X à la fin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand vous ne connaissez pas Dieu, vous étiez asservi à d'autres dieux, petit d et petit x. Et aujourd'hui, en m'étant tourné vers Dieu, je suis dans sa soumission. Est-ce que vous me suivez? Mais je suis libéré de ces faux dieux. C.S. Lewis, je crois qu'il a raison. La seule liberté qu'un homme puisse avoir, c'est de choisir son Dieu. Donc la liberté absolue, me semble-t-il, n'existe pas. La répétition donc des clés qui poussent à consommer, la répétition des mêmes messages, et on l'a vu avec le harcèlement, avec des conséquences, eh bien on a des enfants et des adolescents qui sont obligés, parce qu'ils reçoivent ça depuis tout petit, ils sont obligés de rentrer dans un rôle de consommateur et de grandir plus vite. Ils sont donc plus vulnérables aux comportements compulsifs. Moi, je vois des jeunes, la meilleure promenade pour eux, c'est de se promener dans les grands magasins et de voir. Ils n'ont pas les capacités d'acheter, mais ils sont là comme si c'était un besoin vital pour eux. Et en fin de compte, ça devient un comportement compulsif. Évidemment, le bien-être... c'est toujours le même chose. C'est le cerveau qui a enregistré cette notion de plaisir. Eh bien, il sera satisfait par la consommation, avec évidemment des problèmes de nouer des relations, puisqu'ils sont dans le produit, dans la. Donc, vraiment, ça se passe au niveau des pensées. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence? L'adolescence, ce sont des enfants, des femmes-enfants et des mini-adultes. Regardez, on devient aujourd'hui adolescent de plus en plus jeune, et l'adolescence, aujourd'hui, elle est avant tout culturelle. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La puberté, vous savez que l'âge de la puberté descend de plus en plus? À cause de quoi? Des médias. Elle précède la puberté physiologique et l'adolescence ne découle plus des transformations du corps et de la tête par la puberté. Elle est précipitée par les images, les informations et les pressions auxquelles les enfants sont soumis. Ça veut dire que quand on fait une star, quand on met un enfant de 4 ans, 5 ans sur scène, 6 ans, 7 ans, pour les mettre en avant, on lui donne un rôle qu'il n'a pas à avoir. Et toute cette publicité de d'être mannequin ou d'être belle ou d'être voilà, pour les garçons il y en a aussi, eh bien ce sont des informations qui obligent les jeunes à rentrer dans un moule. Ce moule il est factice, ce moule il est tout à fait artificiel. Normalement on laisse les jeunes grandir et puis à un moment donné et voilà, leur corps change, c'est la puberté. Et oui. Et ben là, c'est dans leur tête, déjà bien avant la puberté, ils veulent déjà être adultes. Ce sont des envies d'adultes, mais des besoins d'enfants. Est-ce que ça va? C'est clair? Donc on va continuer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Nous les parents, ne pas céder au facteur harcèlement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Eh oui, apprendre à dire non. Ben non. Non, tu attendras. Tu attendras. T'es pas. Non, non, c'est pas le moment. Et comme les enfants sont poussés à justement revenir à la charge, eh ben non, à nous, il ne faut pas céder. Il faut s'encourager mutuellement et ne pas céder. Poser des limites à la consommation, voilà ce qu'on va acheter. Il faut prévoir ça, prévoir ça. Voilà ce qu'on va dépenser. Ça, c'est un grand problème pour nous, parents d'aujourd'hui. C'est un immense problème. Et ça, c'est une question que tous les parents se posent. Comment faire pour arracher mon enfant de l'écran, du jeu, de PlayStation? Ou bien, comment faire pour limiter Internet? La télévision, est-ce que c'est un gros problème? Peut-être un peu moins. Ou bien, encore? Encore. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui. C'est encore un problème. Mais Internet, bon, après les heures de forfait portable, ça coûte très cher, donc là, on réagit peut-être. Hein? Mais le contrôle parental, je ne suis pas sûr que tous les parents ont installé un contrôle parental sur Internet. Vous en avez un, vous? Oui. Et on a des gens, des jeunes, dans les vacances familiales que nous faisons, il n'y a pas très longtemps, le même travail que je vais faire avec les jeunes demain soir, en deuxième partie, il y a un jeune qui a fait un sketch, et il a oublié que ses parents étaient dans la salle. Et il s'est pris au jeu tellement bien qu'il a expliqué à son copain comment il faut faire pour détourner le contrôle parental. Ah, ils sont forts. C'est la génération Y. C'est la génération pouce. Ils sont nés là-dedans. Ils savent comment faire. Mais à nous de gérer ça. Alors, il y a différents moyens de gérer l'ordinateur. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen de gestion, Will et Annie? Ouais. On voit. Oui. On le ferme. OK. Oui. 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 C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Pardon? Oui, oui. Oui. C'est ça. Oui. ce que vous croyez aujourd'hui, quoi. Non, normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Mais non, mais vraiment, félicitations, c'est très important. Je pense qu'il faut faire confiance. On peut pas faire autrement de faire confiance. Mais la confiance vraiment accompagnée. On peut pas enlever les écrans non plus. Mais je crois qu'il y a aussi cette discipline de mettre des heures. De mettre des heures. Il y a aussi, qu'est-ce que vous proposez d'autre à la place d'heures d'Internet? Qu'est-ce que vous proposez d'autre à la place de la PlayStation? Vous faites des jeux en famille? Des sorties? Ça, c'est... Voilà, on sort, on fait des jeux de société, c'est quelque chose en famille. Tout ce qui est écran, c'est anti-relation. Et on a bien vu ça, hein, on a bien vu que ça pose un problème. Et que s'enfermer là-dedans, c'est vraiment néfaste. Donc les sorties, les jeux en famille, les repas en famille, c'est très important. Et les repas en famille, le cellulaire éteint, quoi. Et oui. Accepter aussi, en tant que parent, d'être le vieux ringard qui ne comprend rien. Et là, je suis poli quand je dis ça. Hein, c'est pas toujours simple. Ah, mais il faut accepter ce rôle-là. On a une mission. Non, c'est sûr que c'est pas si simple. Mais on a une mission. Une mission d'accompagner nos enfants, et on a reçu cette mission et on doit l'accomplir. Eh bien, même si tu me dis que je suis vieux ringard et que si que tout le monde, tous les parents, les autres parents, ils sont tellement bien parce que ils laissent tous mes copains peuvent regarder ce qu'ils veulent. Et eh ben non, ben chez nous c'est pas comme ça. Chez nous c'est pas comme ça. Et je t'aime quand même. Je t'aime encore. Mais c'est, chez nous, ce n'est pas comme ça. Et je crois qu'à un moment donné, vous savez, même quand on dit non, on s'occupe de notre enfant. On place le cadre. Et le cadre, ça donne de la sécurité. Tu feras comme tu voudras chez toi, mais c'est chez nous. Et maman et moi, si c'est possible, si c'est possible de dire ça, nous avons décidé ceci. Apprendre à vos enfants à décrypter les messages. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est quand même intéressant de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mettre dans la tête. Mais souvent, je dis à ma femme, mais quand on regarde la télévision, on dit, mais ils nous prennent pour des neuneux, quoi. Ça veut dire, ils nous prennent, hein? Ouais, des idiots, quoi. Pour nous balancer des trucs comme ça. Mais attendez, on a quand même fait des études, on a quand même, on a un niveau intellectuel. C'est pas pour nous dire des âneries, quoi, et nous prendre pour des ignares. Et moi, je crois que on peut regarder quelque chose et dire, mais attends, on fait pause là. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire là? Et donc ça, c'est développer l'esprit critique dont je parlais hier. Leur expliquer qu'ils sont victimes d'une arnaque. Que les enfants sont victimes d'une arnaque. Il y a un livre qui a été écrit chez nous en France, comment ils vous piègent, comment les adultes vous piègent. Voilà, ados, comment on vous manipule. Très bon livre. Et là, cette femme, hein, je crois que c'est une femme, oui, cette femme, elle montre aux adolescents que, en fin de compte, ce sont les, comme on dit en français, les dindons de la farce, quoi. Hein, et c'est eux qui sont ridicules et manipulés. Et leur proposer des alternatives d'activité, on vient d'en parler. Donc ça, c'est sûr que vous pouvez pas dire arrête de regarder Internet. Et puis vous ne proposez rien en alternative. Alors maintenant, nous allons passer à justement les médias en elles-mêmes qui proposent disons qu'ils sont pas contre les drogues, et il y a cette culture de ce qu'on appelle la culture de la défonce, et c'est plutôt faire l'apologie des drogues. Alors, bien sûr, ils sont très cohérents avec ce qu'ils pensent, avec ce qu'ils réfléchissent. Il y a beaucoup d'argent derrière. Il y a énormément d'argent derrière. Donc, qu'est-ce que font les dealers ? Ils surfent sur la vague de toutes les personnes qui sont dans le mal-être. Et ils disent, il y a tellement de gens et on va leur faire du bien en leur donnant des produits. Bien comme ça, n'est-ce pas ? Hein ? Et donc, il y a toute une culture, une sous-culture de la drogue. Hein. Et puis, il y a bien sûr des chanteurs, des idéologues, des gens qui sont épris de la liberté. Hein. Pendant très longtemps, chez nous, les Verts, donc les écologistes, le parti écologiste, on avait des gens mais qui racontaient n'importe quoi sur la drogue, c'est-à-dire qui faisaient l'apologie de la drogue. Mais bien sûr, il y a des lobbies, des associations, ce message se relaie, que, en fin de compte, la drogue, synonyme de liberté, on peut en prendre comme on veut, et voilà, une vision spirituelle, mystique, une philosophie, c'est quelque chose si on le sent, et si on le veut, pourquoi pas. C'est un code vestimentaire, un look. À quoi vous pensez ? Ouais, ça fait longtemps, hein ? Faut mettre vos fichiers à jour, là. Pardon. Mais plus récemment, pour nos jeunes, pour vos petits-enfants, les... Oui, vous pensez à personne ? Bob Marley, le reggae et tout ça, ça c'est le code vestimentaire. Quand je parle code vestimentaire, c'est quoi les couleurs ? Rouge, jaune et vert, il connaît. Hein ? C'est les couleurs de Jamaïque, c'est Bob Marley, c'est le reggae, c'est toute cette ambiance-là. Mais oui, vous allez voir, code de couleur. Les ennemis désignés, la police, la justice, l'État totalitaire, les fachos, et puis des slogans comme legalize it. Hein, et voilà. Alors, bien sûr, je mets cette image parce que c'est pour se prévenir que on fait pas, en montrant ces diapositives, on ne fait pas l'apologie de ces choses. C'est juste pour en parler. Le programme promeut la prévention d'usage et l'abstinence face à toutes les drogues. Hein. Regardez, Bob Marley. Voilà les couleurs typiques. Les slogans, les associations. Regardez les... Apparemment, c'est du cirque. Mais ce sont des feuilles de cannabis. Et regardez ici. Partout en Europe, tout est légalisé, évidemment, sauf en France. Et nous, c'est la police, c'est les fachos, c'est les gens qui ne comprennent rien. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Et nous, on va avoir des élections, là. Et bientôt, dans 6 mois, ou je ne sais pas combien, si au mois de mai, et maintenant, tous les candidats, ils se positionnent par rapport à la drogue, à légaliser le cannabis et légaliser la drogue. Ah oui. Ah oui. Ah ben bien sûr. En Allemagne, c'est pas légalisé. Vous êtes sûr de ça? Ben, vérifiez. En tout cas, ce que je vais vous dire, ici, là, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Espagne, ça, je suis pratiquement sûr. Donc, l'Italie, il faudrait vérifier. Oui. C'est-à-dire, pas légaliser, mais tolérer, c'est ça? Non, même en France, Même en France, si vous dites, et si la quantité est cohérente avec ce que vous dites, c'est-à-dire votre propre consommation, ils font rien, quoi. De toute façon, les polices sont tellement débordées qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Nous, on est allés, je vous ai dit ça au départ, hein, on est allés voir la police et la gendarmerie pour qu'on y trouve de l'aide. Impossible. Ils disent, on ne peut pas s'occuper de vous, quoi. Oui. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est peut-être. Alors, il faut voir si c'est légalisé ou pas. Hein. Mais en Suisse, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. OK. Et puis, bon, évidemment, Bob Marley qui fume un joint. Regardez, je cuisine au cannabis. Le cannabis dans la vie de tous les jours, un livre de recettes. C'est bon, voilà. Regardez, maintenant, on va lire ensemble une chanson. Cette étrange cigarette ne nous rend pas hagards. L'an 2000 approchant, rattraper le retard. Vivons à notre époque et dédramatisons. Non bien sur le pétard, n'élève pas la raison. Je le conseille tout de même avec modération, comme cet alcool qu'on prend jusqu'à la déraison. Et pour quelques noyés est devenu passion, mais l'Église ne dit-elle pas, ne dit rien, la cirrhose a raison. Voir un homme tituber ne choque pas la morale, mais l'alcool tant loué vous est parfois fatal. Et le joint si léger dans mon pays natal, des libertés de l'homme devrait être banal. Malheureusement, chez nous, il se vend en sous-main, si peu dangereux qu'il soit l'État, si peu dangereux qu'il soit, l'État lui fait la guerre. Pour une fausse morale, parce qu'il n'en touche rien, voilà la vérité dans cette triste affaire. Là, vous comprenez ça. Il dit, oui, l'État ne veut pas, parce qu'il ne touche pas autant d'argent que pour l'alcool, par exemple, parce qu'il y a des taxes, c'est sur la cigarette aussi. Hein. Un pétard ou un ricard, si t'as vraiment le cafard, à choisir, il n'y a pas photo. Moi, je choisis le Marocco. Le Marocco étant la drogue qui vient du Maroc. Hein. Les alcools ont leur soulard, le cannabis, c'est le panard, ça c'est une expression bien parisienne. Le panard, c'est ce qui est super, quoi. Hein. Y en a qui le mystifient, moi je fais son apologie. Ce serait pourtant si simple de le légaliser, 2 petits joints par jour, c'est antidépresseur. Si l'État, dans ce cas, n'était pas l'agresseur, le peuple tout entier pourrait mieux respirer. C'est encore, cette fois, par l'argent que le bât blesse. Si au moins le hashish pouvait emplir les caisses, nos dirigeants affables fermeraient bien les yeux et parfois, avec nous, s'envoleraient aux cieux. Un pétard ou un ricard, si t'as vraiment le cafard, donc il est d'accord avec toute notre théorie, n'est-ce pas ? Si tu as vraiment le cafard, un ricard ou un pétard, c'est la même chose. À choisir, il n'y a pas photo. Moi, je choisis le Marocco. Pourquoi ? Parce que ça tape plus fort, ça a plus de plaisir. Les alcools ont leur soulard. Le canard, c'est le panard. Il y en a qui le mystifient. Moi, j'en fais son apologie. C'est une chanson, ça. Hein ? L'alcool et le tabac ont le droit de tuer car au compte de l'État apportent leurs deniers. Mesdames, messieurs, dames, mourez donc d'alcool et de fumée. La patente est payée, la mort autorisée. C'est bien vu quand même. Voilà, les enjeux de la manipulation. Évidemment, il y a beaucoup d'enjeux dans cette manipulation. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent à la base. Et on dit ceci, regardez. Les jeunes de 18 ans consacrent plus de 50% de leurs revenus à l'achat de cannabis, d'alcool et de tabac. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a un enjeu là, il y a un enjeu. Hein ? Ah, mais oui, tout à fait. Ah, mais tout à fait. Ouais. Ah, mais on va le voir après. Hein. Parce que le problème, c'est que comme il y a une accoutumance, ce qui se passe généralement, c'est que quand on est accro à la drogue, cocaïne. Chez nous, maintenant, la cocaïne fait un tabac. Enfin, ce n'est pas le mot qu'on pourrait utiliser. Mais la cocaïne fait des ravages, on va dire. Et c'est dans tous les milieux, c'est-à-dire dans les milieux sociaux, dans les bureaux, dans les gens qui sont socialement très haut placés, eh bien, la cocaïne est là. Et les joints, bien sûr, c'est beaucoup les joints, même les 40 ans fument des joints. Le problème, c'est que souvent les jeunes se laissent prendre à ce piège que, voilà, j'en ai besoin, mais ça coûte très cher. Donc, je vais m'arranger avec un dealer et je vais moi-même devenir dealer pour payer ma propre consommation. Avant ça, l'enfant aura volé à la maison de l'argent, aura pris des objets dans la maison pour les vendre, pour toujours de l'argent. L'argent va devenir le vrai problème, puisqu'il faut de l'argent pour acheter de la drogue. Après, le deuxième problème, c'est qu'il va dire, bon, maintenant, mes parents voient comment ça se passe, ils ne laissent plus l'argent traîner, je ne peux plus vendre des affaires, il faut que je passe la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est quoi ? C'est de dealer. Donc, ils vont dire à un gars, bon, passe-moi quelques grammes, je vais les vendre pour toi. Et en les vendant, il va garder une partie d'argent. Sauf que, généralement, qu'est-ce qui se passe ? Il n'arrive plus à rembourser celui qui pourvoit de la drogue. Et là, c'est une mafia qui est absolument impitoyable. Écoutez, c'est pas marrant d'avoir un dealer qui vient sonner à votre porte et qui vous demande si votre fils est là et dit « je vais venir brûler votre maison ». C'est pas du tout amusant, pour l'avoir vécu moi-même. Ouais. D'où ce cours. Voilà. On va s'arrêter là. Ça va, là ? On va se prendre ces 5-10 minutes et puis on va reprendre. Est-ce que ça va jusque-là ? Voilà. OK. On va... Voilà, on va continuer, si vous voulez bien. Alors, comment parler effectivement, de façon effective, de drogue à nos enfants? D'abord, la première chose importante, c'est trouver des outils qui peuvent susciter de la réflexion en rapport avec l'âge qu'il a, évidemment. Il y a des dessins animés, des programmes pour les enfants. Je suis sûr que le Canada n'est pas en reste. Pour nous, vous autres, au Canada, vous êtes bien plus en avance que nous par rapport à tout ce qui est éducatif. Et moi, je cherche beaucoup de ressources en allant sur des sites de canadiens. Alors, lui poser des questions naïves. Est-ce que vous comprenez comment, qu'est-ce que je veux dire là, Annie, qu'est-ce que je suis en train de dire là en disant lui poser des questions naïves? Sur ce qu'il sait, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent, ce qu'il a entendu dire, ce qu'il a vu. C'est, tiens, il fume, tu crois que ça lui fait du bien ou ça lui fait du mal? C'est une question naïve. Et tu vas savoir ce que ton enfant pense. C'est pas de lui faire la morale, c'est que tu veux savoir où il en est en fin de compte. Sachant que de toute façon, un jour, il va être confronté à ce problème. Donc, c'est à toi de le préparer. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de... T'as pas des questions un peu naïves, là, hein? Boire de l'alcool. À ton avis, pourquoi ils boivent de l'alcool? Ou à quoi ça sert de boire de l'alcool? Ou est-ce que c'est bon? Et c'est une discussion que vous allez amener. Rebondir sur ces réponses par d'autres questions. Donc, on n'est pas là à faire la morale, ou à lui faire un discours, ou à lui faire une prédication. On est là à approcher le problème par des questions qui semblent simples, mais des questions quand même qui vont l'aider à réfléchir. Aidez-moi à trouver une question naïve par rapport à ce qu'il a pu entendre dire ou avoir vu. Dans un film, par exemple. Pardon? Oui? Qu'est-ce que tu penses de cette attitude-là, c'est ça? De cette scène-là, où il y avait un homme qui a commencé à conduire, et on a vu qu'il était ivre. Est-ce que tu penses que c'est juste? Qu'est-ce qui peut arriver quand un homme a bu et qui est ivre? Juste des questions. Il va le dire là où il en est. Et c'est ça qui est très intéressant. Ce qui est le plus ennuyeux pour vous et pour moi, c'est que quelqu'un m'explique quelque chose que je sais déjà. Oui ou non? Ben voilà. Donc, posez des questions pour savoir où en sont vos enfants. OK. Alors, c'est un peu comme un entonnoir. On va poser des questions très largement, de façon très ouverte. Qu'est-ce que tu risques en fumant un joint? Est-ce que tu sais ça? Qu'est-ce que quelqu'un risque? Et là, vous avez eu des éléments. Ou bien, donc vous posez la question. Ou bien, tu sais que ton cerveau, c'est un élément de ton corps qui est le plus précieux. Mais comment ça? Attends, ton cerveau. Avec ton cerveau, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux danser, tu peux réfléchir. Et puis, voilà, tout ce qu'on a vu ensemble, n'est-ce pas? Stéphane, tu me feras penser. Je vais vous laisser un document. Il fait 160 pages. Je ne pouvais pas l'imprimer. Je ne savais pas combien de personnes étaient là. Mais moi, je vais vous laisser ce document sous forme informatique. Ça ne me dérange pas. et vous allez vous l'imprimer pour vous-même. C'est tout le cours de 12 heures. 10, oui, vous allez. Et avec beaucoup de détails, beaucoup, beaucoup. Et même à la fin de chaque session, il y a encore des ressources supplémentaires. On ne pouvait pas tout mettre dans le cours, sinon ça aurait fait 20 heures. Mais franchement, parce que je réalise, vous n'avez fait que de m'écouter. Et toutes ces informations-là, personne ne peut capter tout en une fois, n'est-ce pas? Et donc, il vous faudra revenir en arrière, regarder, ah si, il avait dit ça, et vous regardez ça. Donc, ça sera votre livre de référence, vous pouvez en parler avec votre conjoint, vous pouvez... Et là, vous allez pouvoir aussi retrouver toutes ces données que, sur le cerveau, sur toutes sortes de choses, et vous allez voir ça. Donc, tu me feras penser ça, mais il faut... C'est juste pour ceux qui ont suivi le cours, parce que sinon, ça n'a pas tellement de sens. Hein? Donc voilà, le cerveau, une autre question. Tu sais que tu as beaucoup de valeur et toutes ces choses vont t'amener à te détruire. Voilà, vous fumez ces ringards, c'est-à-dire c'est dépassé. De toute façon, ça n'amène nulle part. Enfin, voilà, vous allez pouvoir poser des questions. Et tu sais que même fumer une seule fois, ça peut te faire tellement de bien dans ton cerveau que tu vas toujours vouloir retrouver ça. Mieux vaut laisser ça de côté, quoi. Il y a des choses, on ne s'approche pas. Comme le feu, quoi. Ça brûle. Bon, parfois, il faut se brûler, mais tu n'es pas obligé. Tu peux aussi m'écouter. On pense toujours, et ça c'est la psychologie moderne qui a souvent dit ça. La psychologie moderne dit, bon, l'enfant, le jeune se construit en s'opposant avec ses parents, à ses parents, en s'opposant à ses parents. Et c'est parce qu'il y a cette opposition qu'il peut être lui-même. Bon, ce n'est pas ce que je lis dans la Bible, hein, dans les proverbes. Mon fils, souviens-toi de... l'enseignement de ton père et l'enseignement de ta mère. Ne te détourne pas. Ils t'ont pas dit ça pour t'embêter, quoi. Donc, un enfant n'est pas obligé d'être dans la rébellion. Pour moi, c'est Freud qui a raconté ça, mais comme aussi d'autres bêtises, quoi. Pardon. Tu as le droit d'être différent. Voilà, tout ce genre de questions, je dois aller un peu plus vite, c'est à toi de décider ce que tu veux pour ta vie. Et toutes ces choses-là lui permettent de faire des choix. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez semé des informations qui sont très précieuses. C'est ça, la prévention primaire. Alors, avant d'en parler, évidemment, on va revenir. Avant de parler de toutes ces choses, eh bien, on revient à cette chose fondamentale, de développer une relation de confiance, et on a pris l'habitude de parler de choses importantes. D'adapter aussi, bien sûr, votre discours à son âge. Et il y a tout un texte dans ce livre que vous allez avoir, eh bien, comment parler de drogue à votre enfant selon son âge. Et en fait, je crois que... peu importe. En tout cas, c'est là-dedans, hein. Et donc, c'est vrai, on ne parle pas de drogue à 6 ans comme on parle à 12 ans ou à 15 ans. Choisir le contexte, c'est-à-dire le contexte, le bon moment, c'est souvent, enfin ça dépend des familles, hein. Des fois c'est, vous savez, c'est papa ou maman qui conduit la voiture, l'enfant est à côté, on ne se regarde pas, mais il y en a des choses qui passent là, hein, parce que le contexte est favorable. Hein, et partir de ce qu'il connaît déjà. Et c'est ça les questions naïves. Savoir où il en est, qu'est-ce qu'il a déjà entendu. Ne pas assumer qu'il pense comme vous. Parce que lui, il a d'autres sources d'informations. Et vous devez connaître ce qu'il croit. Moi, j'étais effaré. Je faisais un groupe de jeunes, je parlais de la vie affective et sexuelle. Dans une église. Et je me suis aperçu que la moitié des jeunes pensaient que l'homosexualité, on pouvait naître homosexuel. Ce qui est une erreur, c'est faux, c'est un mensonge. Un mensonge qui nous est balancé par qui ? Par qui dans la société ? Par les médias, par les lobbies, par les films, par l'école. Et j'étais effaré, je dis, ça passe, l'information passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on doit absolument partir de là où ils sont et de savoir ce qu'ils croient, savoir ce qu'ils pensent. Trouver des images qui lui parlent. Comme par exemple l'ordinateur, il me semble, donc vous aurez tout ça, en fin de compte, le livre, il suit tout le déroulé du PowerPoint. Hein, et donc vous allez retrouver toutes ces images, vous pouvez lui en montrer. Choisir le contexte, choisir un contexte calme au cours duquel personne ne vous dérangera, que vous ayez suffisamment de temps pour en discuter, prenez l'habitude de communiquer sur d'autres sujets avant, ne parlez pas que de ça, parce que vite il en aura marre. Et quand votre... répondez à la question quand vos enfants parlent de drogue et quand vous aussi, vous souhaitez en parler. Parce qu'il n'y a pas que... Il ne faut pas seulement attendre le moment. Vous aussi, vous avez des choses à dire. Hein. Pardon ? J'ai pas compris ça. Ah ben, généralement, c'est ça, pas trop... qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires, quoi, surtout des intermédiaires virtuels. Hein. Alors, à vous de savoir quels sont les moments privilégiés pour parler de sujets importants. À éviter, évidemment, les périodes de stress, de tension, de crise, quand on a un problème dans la famille ou entre nous, quand on est sous le coup de l'émotion, la colère, par exemple, ça ne va pas, hein. Eh bien, vous devez aussi savoir quand est-ce que vaut mieux ça. Il vaut mieux laisser passer un peu de temps avant de parler de ces choses-là. Mais c'est dans votre famille, parce que dans d'autres familles, ça sera d'autres moments. Quoi dire à quel âge ? Vous pouvez commencer à en parler entre 6 et 10 ans en utilisant des images analogiques, simples et marquantes. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 10 ans, il a déjà probablement entendu parler de drogue, mais il ne s'est pas fait encore d'opinion personnelle. Et vous, vous êtes encore ses héros. Vous êtes encore les personnes qui sont crédibles. C'est le meilleur moment pour parler des substances, des risques et des dangers. Normalement, à 10 ans, il n'a pas encore touché. Voilà, vous restez crédible aux yeux de vos enfants et dans 2 ans, il rentre au collège. Et là, il sera en plein, il sera exposé à ça. Après 12 ans, vous pouvez confronter ce qu'il sait déjà ou pense savoir et aussi montrer, le pousser un peu dans ses contradictions. C'est-à-dire, ça devient, vous pouvez discuter, c'est ça que je veux dire. Les effets immédiats de l'alcool, du tabac, voilà ce qu'il devrait savoir avant de rentrer au collège, et aussi sur la consommation de la drogue, sur les différentes parties du corps. Qu'est-ce qui se passe si je prends telle chose ou telle chose, etc. Les conséquences sur le long terme, il devrait savoir ça. Comment les drogues peuvent créer une dépendance et faire perdre le contrôle de sa vie. Je vais parler de ça demain soir. Les problèmes que l'alcool et les autres drogues entraînent pour la personne qui consomme, mais aussi pour ceux qui l'entourent, parce qu'on n'est pas seul sur la terre, et la consommation de drogue a des conséquences sur les autres. Et utiliser des images marquantes. L'ordinateur, on en a parlé, avec les effets sur le cerveau. L'automobile, les effets sur la santé, effet sur, vous allez voir, c'est dans le livre. L'abus des glaces, c'est la compulsion, les glaces, vous appelez ça les crèmes glacées, n'est-ce pas? La glace, c'est autre chose, hein, c'est sur le lac, hein, c'est ça? Bon, il faut que je mette mes fichiers à jour, moi aussi. L'expérience avec le singe, on en a parlé. Et puis, la vague, le tsunami, la différence entre le plaisir naturel et le plaisir de la drogue. C'est ce que je vous ai expliqué avec le sable, la plage et les vagues. Et puis, la roulette russe, l'inégalité entre deux personnes devant la dépendance. Vous allez avoir des explications dans le détail de toutes ces images. Ah, le cheval de Troie, on n'en a pas parlé. Le cheval de Troie, ça vous dit quoi, ça? Ça vous rappelle des histoires? Absolument. Où on vient, et en fin de compte, c'est de l'intérieur, et on fait rentrer un intrus à l'intérieur, qui va, on gagne ou on perd avec quelqu'un qui rentre. Donc c'est le virus, hein, comment laisser entrer la drogue au cours d'une expérimentation peut laisser la porte ouverte à la dépendance. Comme le cheval de Troie, ça, c'est évident. Voilà, donc on a terminé la troisième séance. Maintenant, on a juste une demi-heure pour attaquer la dernière. Et je ne sais pas si je vous parle de ça. Hein? Vous avez envie de ça? Hein? Tout à fait. Et je mets ça parce que en France, les parents ont eu une fausse information, c'est que les parents n'ont pas le droit de mettre des limites. Mettre des limites égale ne pas aimer ses enfants. Et moi, je voulais vous démontrer que, en fin de compte, mettre des limites, c'est sauver vos enfants. Alors, on y va. Regardez. Pour nos enfants, on a envie de décrocher la lune. Je vais aller assez vite. Hein. Et on voit ici un individu adulte qui est symbolisé par une fusée. Et nous, on veut le bonheur, n'est-ce pas? La fusée de Tintin, ça vous dit quelque chose? Hein, ça, c'est notre époque, n'est-ce pas? Avec trois moteurs. Et normalement, cette fusée devrait atteindre la Lune. Et le problème, c'est que... Alors, on ne voit pas très bien là. Pour réaliser nos rêves et nos objectifs, nous avons besoin de faire des choix qui déterminent notre trajectoire. Alors, regardez. Voilà, normalement, la fusée va arriver à la Lune. Le problème, c'est que on a trois moteurs. Quand un enfant naît, il naît avec ses trois moteurs. Mais les trois moteurs ne sont pas allumés. Alors il y a un moteur, deux moteurs, trois moteurs. Il y en a un, c'est le moteur de réalité. Il est là. Il y a un deuxième, c'est le moteur du plaisir. Il est là. Il y a le troisième, c'est le moteur de l'économie. Excusez-moi, l'écriture n'est pas bonne, je vais changer ça pour la prochaine fois. Le problème, c'est que ces trois moteurs sont là. Seulement, il y en a seulement deux qui sont en marche. C'est le moteur d'économie, celui-là, et le moteur de plaisir. Un petit bébé, par exemple, tout ce qu'il veut comme plaisir, c'est de téter, d'avoir à manger. Et il va vouloir manger le plus rapidement possible, le plus simplement possible. Il n'a pas besoin de. Il ne voudrait pas travailler pour ça. Donc, il est dans l'économie, dans la paresse, on va dire ça. Et nous, on est souvent comme ça. On veut le plaisir, maximum de plaisir, avec le moins d'efforts possible. On se reconnaît là? Ville, en tout cas. Oh, pardon. C'est ça. Et alors que le moteur de réalité, il est là. Le moteur de réalité, c'est qu'il y a des conséquences à mes actes. Il y a des conséquences. Je crache en l'air, ça me retombe dessus. Si je tombe là, je peux me faire mal. si je roule sans ceinture de sécurité et que je cogne une voiture, je vais me permettre. Il y a des conséquences à mes actes. Si je roule sans permis de conduire et que j'ai un accident, il va y avoir des conséquences. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Mais ce moteur de réalité, ce qui fait un adulte, ce moteur de réalité, pour les enfants, il est là potentiellement, sauf qu'il n'est pas en marche. Il n'est pas en marche. Il y a donc deux moteurs qui sont en marche, le moteur d'économie et le moteur de plaisir. Et donc, on a donc le moteur de plaisir, le moteur d'économie et le moteur de réalité. Le moteur de plaisir, faire un choix qui offre des perspectives de plaisir, d'émotion agréable. Voilà. Le moteur d'économie, c'est ce que je vous ai dit, faire le choix qui rapporte le maximum de bien-être pour un minimum d'effort. Et puis finalement, le moteur de réalité, faire un choix par rapport à un objectif que l'on s'est fixé ou des conséquences qu'on pressent. On fait pas n'importe quoi parce qu'il y a des conséquences. Alors, justement, pourquoi ces trois moteurs ? Pour satisfaire nos besoins vitaux. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Voilà, les besoins vitaux. Maintenant, on a toutes sortes de choses dans notre vie. Parfois, on déménage, on se fait larguer, c'est-à-dire on est abandonné par quelqu'un, on est en dépression, on peut avoir une crise de chômage. Enfin, on a des problèmes dans notre vie parfois. Et normalement, avec ces trois moteurs, on surmonte tous ces problèmes. Nous sommes normalement capables de surmonter nos problèmes. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant ? Ok. Mais ce que je suis en train de dire, ça c'était pour une personne adulte. Normalement, une personne adulte équilibrée entre le plaisir, l'économie, moteur d'économie et le moteur de réalité, c'est-à-dire je fais attention à ce que je décide et parce qu'il y a des conséquences, eh bien, on peut traverser toutes les vicissitudes de la vie. Sauf que, je vous ai dit, un enfant naît avec ces trois moteurs, sauf qu'il y en a deux qui fonctionnent. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand il va y avoir un problème, eh ben, il va y avoir un crash. Pourquoi ? Parce que le jeune n'a pas ce moteur de réalité. En marche. Il y a dans l'adolescence un décalage entre le plaisir et la réalité. Dans un cerveau d'enfant qui grandit, le moteur de plaisir est immédiatement actif, je viens de vous le dire. Donc, il va prendre des risques. Quand hier, je disais à un enfant de 2 ans, je ne fais aucunement confiance, j'ai raison. Parce que lui, son grand plaisir, quand il est dans un immeuble de 3 étages ou 5 étages, son immense plaisir, c'est de se pencher à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Et il se penche et il tombe. Mais c'est sa curiosité, c'est son plaisir. Mais il n'a pas la notion, le moteur de réalité n'est pas en manché. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le moteur de réalité, donc il y a des prises de risque. Le moteur de réalité se construit progressivement avec le rapport aux autres, les expériences et l'éducation. Et on va maintenant apprendre à réfléchir avant de se lancer. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Le moteur de réalité, il commence à se mettre en marche à partir de quel âge ? L'adolescence ? La naissance ? Non. Il est là, potentiellement là, mais il ne se met pas en marche là. 5-6 ans. Avec l'éducation, avec l'accompagnement, il apprend qu'il ne faut pas toucher. Donc là, ça commence. À partir de quel âge il commence à avoir ça? Alors ça dépend, les garçons et les filles, ça dépend les personnalités. Et donc il va apprendre. Et ça dépend aussi de la place dans la famille. Souvent le syndrome de l'aîné qui a souvent plus de responsabilités, il est beaucoup plus raisonnable, n'est-ce pas? Mais on dit que voilà, on dit, c'est pas non plus exact, mais on dit que c'est vers 7-8 ans que vraiment l'enfant commence à comprendre qu'il y a des conséquences à ses actes. Et quand est-ce que le moteur de réalité est en pleine puissance? Oui, c'est quand l'adulte? C'est quand l'adulte? C'est pas 18 ans. 18 ans, c'est un âge légal politique. Mais c'est 20 ans et plus, qui dit mieux? 20 ans? 25. Bon, on dit 23-24 ans. On dit 23-24 ans. Et pour ça, vous pouvez voir que les loueurs de voitures ne louent pas de voitures à des jeunes qui ont moins de 21 ans, même des fois 22 ans. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller faire le fou sur l'autoroute. Alors qu'après cet âge-là, ils sont beaucoup plus raisonnables. Et qu'ils savent un peu mieux les conséquences. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire, quand vous dites à votre jeune, mais qu'est-ce que tu as dans la tête pour faire un truc comme ça? Eh bien oui, il lui manque quelque chose. En fait, il ne lui manque rien. Il y a juste un boulon qui n'est pas fini de serrer. Ça va? C'est clair comme ça? Ce n'est pas tellement un langage de psy, mais ça se comprend. Et il va y avoir... Et donc, le jeune ne peut pas faire autrement. Il n'est pas en capacité de comprendre qu'il y a des conséquences au risque qu'il prend. Et donc... Nous disons, et moi je dis aux parents, prêtez un moteur de réalité à vos enfants parce qu'ils ne sont pas en capacité d'avoir ce moteur de réalité. Ça veut dire, mettez des limites. À quelle heure tu rentres ce soir? Avec qui tu vas? Chez qui tu vas? Qu'est-ce que tu vas boire? Qu'est-ce que tu... etc., etc. Mettre des limites. Pourquoi? Parce que lui n'est pas en capacité. Je vous raconte une histoire. Allez-y.
Ce moteur de réalité-là, il évolué avec les générations, pas de 18 ans, 22 ans, dans le temps de mes parents, ça peut être plus jeune.
C'était 21 ans. Ah, mais après, ça dépend aussi. Mais oui, ça dépend. Parce que le jeune qui apprenait à travailler avec son père, il était dans la vie active, n'est-ce pas? Et donc, son père était là avec lui pour lui dire tu fais ça comme je te le dis, quoi. Et on avait l'impression que les jeunes étaient mûrs beaucoup plus tôt, quoi. Bon. Je ne suis pas en train de faire de la nostalgie, hein, d'accord? Mais on peut expliquer des choses comme ça. Je raconte une histoire. Je reçois un coup de téléphone un lundi matin. Monsieur, est-ce que je peux vous voir? J'ai un problème. Ah bon? Oui, écoutez, ma fille. Nous sommes divorcés, mes deux filles, 17 et 14 ans, restent chez leur père la semaine et le week-end sont chez moi. Et le week-end dernier, voilà ma fille de 17 ans qui est en classe terminale avant l'université, c'était à la rentrée scolaire, donc début octobre, fin septembre, début octobre, ben voilà cette période-là. Et elle vient le vendredi soir et elle me dit qu'elle est invitée à un anniversaire le samedi soir. Et moi, je veux pas être la maman qui est trop stricte. Et donc, je lui ai dit qu'elle pouvait y aller. Et hier matin, à 5h du matin, l'hôpital m'a téléphoné en disant « Votre fille est là dans le coma ». Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que cette fille, jeune fille, brillante à l'école, belle jeune fille de 17 ans, cette jeune fille, elle a été piégée par trois garçons qui lui ont fait croire que toute la classe allait venir. Finalement, il n'y avait que ces trois garçons et elle, avec de l'alcool, du joint et du GHB. C'est quoi le GHB? C'est la drogue du viol. C'est-à-dire, vous mettez ça dans de la boisson et vous ne vous souvenez de plus de rien. Et donc, on fait ce qu'on veut avec vous. Et donc, il y a eu une viol tournante. Et cette jeune fille, et avec l'alcool, la drogue et tout ça, elle est tombée dans le coma et elle se retrouve à l'hôpital. Le problème, la responsabilité était de qui? Pardon? Bien sûr. Pourquoi? Elle n'a pas prêté un moteur de réalité. Elle a voulu être cool. Mais sa fille n'était pas en capacité de réaliser. Son moteur de réalité n'est pas en fonctionnement entièrement. Elle n'a pas réalisé tous les risques qu'elle prenait. Elle n'a pas dit où tu vas, quand est-ce que tu reviens, chez qui tu vas, avec qui tu vas, est-ce que tu vas boire de l'alcool, est-ce qu'il y aura de la drogue. Enfin, poser des questions. Je vais venir te chercher. Donne-moi le numéro de téléphone des parents que je puisse voir qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Et moi, je dis, mais c'est dramatique. C'est un crime, quelque part, sous le couvert de la liberté et de l'amour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que le moteur de réalité du jeune n'est pas en fonction. Le boulon, là, n'est pas serré. Et donc, il nous faut lui prêter un moteur de réalité pendant un certain temps. Et à fur et à mesure qu'il grandit, on fait confiance. Jusqu'au moment où il va s'apercevoir. Bien sûr, il va faire ses expériences, vous comprenez? Mais vous ne voulez pas que votre fille elle fasse une telle expérience. Et moi, je me rappelle très bien avec mon fils aîné, qui était là l'autre jour, quand il était jeune adolescent, là, on était en Afrique, à Brazzaville, et tout à coup, il me dit... Tiens, il y a quelqu'un, bon, c'est un peu une histoire un peu longue, mais on allait dans un endroit où il y avait une piscine pour se détendre et tout ça, et là il y avait un couple qui était là, voilà, bon, un couple qui était, il avait 60 ans, et voilà, on avait sympathisé, tout ça, bon, et puis le gars faisait du piano, et notre fils aîné faisait du piano et tout ça. Et puis, tout à coup, ma femme me dit, tiens, ce monsieur-là m'a dit qu'il voudrait bien inviter Luc pour son... Parce que sa femme était partie une semaine en France et que Luc pouvait rester chez lui pendant cette semaine-là pour qu'il ne soit pas tout seul et tout ça, quoi. Et qu'il pourrait faire du piano ensemble et tout ça. J'ai dit, mais pas question. Pas question. Alors, Luc, il n'a pas du tout compris. J'ai dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai dit, mais tu ne vas pas aller chez quelqu'un comme ça. Non, pas question. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, je lui ai mis les points sur les i. Je lui ai expliqué comme un père explique à son fils, quoi. Et tout à coup, il me dit, ah, mais t'as raison. Parce que l'autre jour, je suis sorti de la piscine et tout ça, et il voulait me tenir la serviette pendant que... Ok. Merci, Seigneur. Tu m'as conduit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Eux, ils n'ont pas de moteur de réalité. Enfin, il est là, mais il n'est pas en pleine puissance. À nous d'en prêter un. C'est tout ce que je suis en train de dire. En encourageant les rêves, les projets, l'autonomie et en les informant sur les risques qui sont sur leur chemin, il y aura des risques sur leur chemin. Eh bien, et on va les accompagner. Vous stimulerez la construction de leur propre moteur de réalité. En apprenant à surmonter la difficulté, les obstacles et la frustration, à retirer les leçons de leurs expériences malheureuses, vous fournirez les outils dont ils auront besoin plus tard pour gérer leur vie d'adulte. Vous leur apprenez à supporter l'incertitude et les souffrances qui font partie de la vie en apportant un amour inconditionnel. Vous réduirez les situations de stress, d'angoisse et d'insécurité qui les rendent particulièrement vulnérables à la drogue. Voilà, en les informant sur les drogues, les effets du plaisir, leur fonctionnement sur le cerveau et leurs conséquences. Vous leur apprenez à considérer la drogue comme une source de plaisir contraire à leur bonheur. Ok ? Alors, une source de plaisir, oui, mais contraire à leur bonheur. Ok. Et vous leur apprenez que le bonheur se gagne, se construit pièce par pièce. Ça tombe pas comme ça, boum, ça se construit toute la vie, ok. Bon, écoutez, on va dépasser le temps, hein, ça c'est sûr. Bon, on va aller assez vite, parce que là vous pouvez avoir des informations sur Internet, comme vous voulez. De toute façon, ça sera sur le livre. Dans le livre, il y a toute une partie sur les produits eux-mêmes, avec comment on les nomme, les effets qu'ils donnent, pourquoi les jeunes aiment ça, etc. etc. Donc, moi, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Ça va ? Vous pourrez avoir toutes les informations sur Internet, dans ce livre aussi. Sachez simplement, pour le cannabis, ce que les hippies fumaient dans les années 68 et 70, c'est du thé par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Ce que vous, frère, vous avez fumé quand vous êtes... Non, j'ai dit... Non, mais regardez, il y a aujourd'hui 10 fois plus de THC, c'est ça, c'est le produit, disons, qui drogue, hein, dans certaines variétés de cannabis qu'il y a 20 ans. Donc, la plante a été modifiée génétiquement. Et voilà. Écoutez, moi, je n'ai pas le temps d'aller là. Vous aurez tout ça sur le livre et dans le livre. Et je ne peux pas parler de tout ça. Avec les extasies, les plaisirs, mais vous aurez tout ça, je ne peux pas... le GHB, donc là, j'en ai parlé un petit peu. Alors, identifier un usage de drogue, quels sont les symptômes discrets d'une consommation ? Voilà, notre objectif, c'est d'intervenir tôt pour enrayer un processus de chute vers la dépendance. Sauf que, souvent, nous, les parents, nous sommes les derniers à savoir. Toute la famille sait que le frère ou la sœur se drogue, et nous, les parents, comme si on était frappé de cécité, ou bien on ne voulait pas entendre, on ne voulait pas voir, ou bien, voilà, parce que c'est difficile pour nous d'admettre que notre fils se drogue, ou notre fille se drogue. C'est trop difficile, je suis passé par là, mais on n'en veut pas de ça, on ne veut pas voir. Bon, mais quand même, c'est important d'être vigilant. Regardez. Des changements dans son apparence et dans ses habits. Attention quand je vais parler de ça, parce que les symptômes que je vais décrire ici, si vous les prenez individuellement, c'est pas sûr que ça soit de la drogue. Ça peut être parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il passe par l'adolescence, ce sont des symptômes. Voilà. Mais quand même, des changements dans son apparence, ses habits, un isolement grandissant, vous connaissez vos enfants, vous vivez avec eux, donc vous savez comment sont vos enfants, s'ils sont d'habitude secrets ou pas secrets. Un changement dans ses pôles d'intérêt et dans ses activités. Tout à coup, vous voyez que vos enfants, ils s'occupent plus de leurs affaires d'habitude, mais ils vont traîner avec surtout des plus âgés. Une baisse des résultats scolaires. Bon, ça peut être des facteurs, différents facteurs. Hein, mais quand même, on peut s'en inquiéter. Des symptômes moins discrets. Une dépression profonde qui s'accompagne d'une augmentation des heures de sommeil. Ben, disons qu'on voit qu'à l'adolescence, à cause du corps qui change, ils ont besoin de sommeil, beaucoup de sommeil. Mais la dépression est quand même quelque chose à relever. Donc ne prenez pas juste une chose, c'est l'ensemble de ces symptômes, de l'isolement. Un absentéisme injustifié de plus en plus fréquent. Ben oui, parce qu'il n'est plus intéressé. Quelqu'un qui prend de la drogue, c'est un hors-la-loi. Donc, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est son activité. De plus en plus de coups de téléphone inexpliqués qui déclenchent une réaction affolée. C'est qui ça ? Qui c'est qui téléphone ? C'est Dealer, bien sûr. Il commence à fumer du tabac. Alors voilà, le tabac, c'est pas si grave, on va dire. Mais... quand il ne fume pas du tout, bon, les choses sont claires. Mais là, quand il commence à fumer du tabac, c'est déjà une porte qui s'ouvre, quoi. L'apparition de problèmes d'argent. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut de l'argent pour se droguer. Une importance, perte de poids ou, au contraire, une prise de poids. Ça dépend des individus. L'apparition de nouveaux amis, souvent plus vieux que votre enfant. Ben oui, bien sûr. Alors, des signes qui ne trompent pas. Donc, vous avez vu, on avait pris les signes discrets, moins discrets, et des signes qui ne trompent pas. Alors, on trouve maintenant des cigarettes vides. Pourquoi vides? Pour mettre, hein? Eh oui, c'est ça. Des tickets de train, des tickets de métro, cartes de visite déchirées pour rouler des filtres pour les joints. Des feuilles à rouler spécialement longues. Et comme ça, on va les rouler en cône pour faire des joints. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vos enfants, normalement, se cachent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que à la fois, ils se cachent, à la fois, ils laissent des traces. C'est comme s'ils voulaient être découverts. C'est comme s'ils voulaient que vous le sachiez, quoi. C'est assez intéressant de voir que c'est paradoxal. À la fois, ils se cachent, ils ne veulent pas que vous sachiez, mais ils en laissent plein le lavabo quand même. Et vous le voyez. Des petits sachets. Des miroirs. Des bouteilles d'eau minérale avec un trou de 50 mm de diamètre sur la paroi. Pour faire quoi? Pour faire un bang. Est-ce que dans les pays Égypte, autour de la Méditerranée, ils ont des chichas? C'est-à-dire, enfin, vous savez ce que c'est? Ok, j'ai pas besoin de faire de dessin. Mais on peut faire ça, la même chose, avec une bouteille en plastique. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font avec des bouteilles en plastique, avec un trou au milieu? Et puis des morceaux de tuyaux d'arrosage. Je comprenais rien, quoi. Ouais, ils m'ont mis au courant. Des bangs achetés, des pipes, hein, des traces de brûlure, évidemment. Voilà, tout ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Alors, dans le comportement, des yeux rouges, comme s'ils étaient très fatigués, comme s'ils n'avaient pas dormi pendant une nuit. De la difficulté à tenir un discours cohérent, une difficulté à trouver des mots justes, et des sorties fréquentes. En soirée, avec des excuses, rentrer tard le soir, direction sa chambre, en évitant de croiser le regard d'un membre de la famille, une agressivité inattendue à l'égard de ses frères et sœurs et de ses parents, un fort repli sur lui-même et ses intérêts, sans considération pour ceux des autres. Faire attention à un brutal changement d'attitude. Voilà. Bon, vous aurez tout ça, bien sûr. Alors, Dr Chameillou relève que le consommateur chronique de cannabis a de la difficulté à trouver les mots pour s'exprimer, éprouve de la tristesse, a le sentiment de ne pas être compris. Le cannabis entraîne une paranoïa. D'où le sentiment de ne pas être compris. À des opinions toutes faites, vous voyez des jeunes qui sont typiquement autour d'un djembé, je ne dis pas que tous ceux qui jouent du djembé fument, n'est-ce pas? Mais typiquement chez nous, à la plage, dans les vacances, si vous voyez des gens qui jeûnent, qui font du djembé, et qui se passent des cigarettes, ils passent la nuit, ben c'est des joints en fait, ils passent la nuit à refaire le monde. Il n'y a rien qui se passe. C'est juste... Mais c'est ça. Et ils pensent qu'ils sont très intelligents. Ils ont des opinions toutes faites, oh, c'est comme ça que ça se passe et tout. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun projet. La drogue va les vider de toute énergie. Ne supporte pas la critique, est incapable d'autocritique, évidemment, et pense que les difficultés viennent des autres et pas de lui. A des difficultés d'attention, de concentration, c'est clair. C'est pour ça que les résultats scolaires diminuent aussi. Se croit actif parce qu'il fait des projets, mais il n'y a rien qui se passe. Incapable de prévoir, coopérer avec les autres, se réfréner de réfréner ses envies du moment, n'a pas conscience de l'altération du fonctionnement mental. Évidemment, il est le seul à ne pas savoir que, en fin de compte, il ne fonctionne plus comme il faut. Alors, bien sûr, certains enfants sont plus habiles que d'autres à cacher leur consommation et peuvent bluffer. Lorsqu'on est accro à une substance, on devient créatif et ingénieux pour réussir à ne pas éveiller de soupçons. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un va devenir hors la loi. Et donc, être hors la loi, c'est qu'on va trouver des systèmes pour toujours contourner la loi. Hein. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous ces signes de consommation peuvent être aussi des symptômes d'autres difficultés. Il faut vraiment faire attention, mais ne pas éliminer le problème de la drogue. Oui. Non, on ne parle pas des antidépresseurs. Ah bon, les antidépresseurs, c'est pas des drogues comme on parle. Bon, assez les drogues, enfin les antidépresseurs ont aussi des conséquences, n'est-ce pas? Mais comme c'est sous contrôle médical quand même. Hein. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Hein. Ça dépend de ce qu'ils prennent, je pense. Hein. Alors, identifier un usage de drogue dans votre attitude n'est pas le but de le coincer. Si on a ce but de coincer le jeune, ça ne va pas l'aider beaucoup. Ce qu'on veut, nous, c'est de savoir où il en est pour l'accompagner d'une possible spirale descendante et qui l'entraînerait vers la dépendance. Hein. Allez. Bon, on va s'arrêter là. Non, je voudrais continuer un petit peu là. Et là, tu en as une pour ça? Sauf que je ne suis pas branché là. Attendez, mais je vais... Écoutez, on va pas tout faire parce que ce serait trop, mais quand même. Hein? Ici, d'accord, très bien. Très bien. Alors, on y va, pour le témoignage de Kevin. Donc, moi, je vais le lire, et puis vous allez suivre en même temps. Hein, tu peux y aller. Hein. Je m'appelle Kevin, j'ai 23 ans. Voilà le témoignage d'un garçon. Je suis marié, séparé, père d'un petit garçon de 15 mois. Je viens de me réveiller d'un long rêve, ou plutôt d'un cauchemar, en grande partie lié à ma consommation de cannabis. Il y a encore 6 mois, je sortais tout juste d'un dernier de mes 3 séjours en hôpital psychiatrique parce que j'avais pété un plomb. Depuis, j'ai complètement arrêté de fumer du shit. Aujourd'hui, je me reconstruis tout doucement sur tous les plans. Boulot, finances, morale, après avoir quasiment tout perdu. En temps normal, le cerveau sert à régler tous les problèmes qu'on rencontre. Pendant longtemps, mon cerveau n'a plus joué ce rôle à cause de la fumette. Tout a commencé en 3e, donc à 15 ans. À l'arrêt du bus devant le collège, j'ai vu quelqu'un qui fumait un joint. Je lui ai alors demandé si je pouvais tirer un taf pour voir comment ça faisait. J'ai pas été déçu. Ça a été très puissant. J'ai fait un vol plané dans le bus. Après ça s'est enchaîné très vite. avec les autres fumeurs au lycée, on sortait fumer un joint dès qu'on avait une pause, quasiment tous les jours, entre midi et deux. Puis après, il y a eu le joint du soir à la maison. En un an, c'est devenu mon seul passe-temps. Au début, j'avais des moments de lucidité et des moments où je planais. Rapidement, je n'ai fait plus que planer. Il fallait absolument que j'aie l'air normal pour pas que mes parents me captent, c'est-à-dire m'attrapent. Quand mes parents ont découvert que je fumais, ils sont passés par tous les états. Peur, remise en question, engueulade, méfiance permanente. La drogue et moi, nous sommes devenus le principal sujet de conversation. Ils me faisaient la morale et moi, je me justifiais. À la maison, l'ambiance est devenue super glauque. J'ai continué à fumer tous les jours et je suis passé du joint au bang parce que ça me fracassait plus la tête. Je me suis marié, j'ai eu un petit bébé. Je suis devenu de moins en moins lucide et je fonçais tête baissée sans prendre le temps de peser le pour et le contre. Vas-y. Hein ? À chaque fois que je trouvais un boulot, j'arrivais à me contrôler un moment, puis après je partais de nouveau en live. Je me faisais virer à chaque fois et ce n'était jamais de ma faute. À la fin, j'étais devenu grave. Je me prenais la tête avec tout le monde. J'étais hyper émotif. J'arrivais plus à prendre de la distance. Il a fallu que je touche le fond pour ressortir la tête de l'eau. J'ai d'abord perdu la raison, puis mon dernier job, puis ma femme est partie et je me suis retrouvé tout seul. J'ai compris que les seules personnes qui me laisseraient jamais tomber, quel que soit mon état, c'était ma famille. Mes parents et mes frères ont eux aussi bien compris plein de choses, notamment qu'ils devaient être patients avec moi et rester vigilants, parce que quand on arrête, les émotions vont dans tous les sens et on a besoin d'être protégé contre soi-même. On a aussi besoin d'être encouragé et de sentir que notre famille croit en nous. Mon fils, je lui raconterai mon expérience. Je lui ai donné la vie. Je dois le protéger au début et puis ensuite devenir un guide pour qu'il apprenne à être heureux. Je n'ai aucune garantie qu'il n'essaiera pas, mais j'essaierai de lui faire comprendre. Je ferai super gaffe aux gens avec qui il traîne. Voilà. Ça, c'est le témoignage d'un gars qui a commencé à 15 ans, qui s'est arrêté à 23 ans. Pendant ce temps, je vous rappelle, le fait de fumer du cannabis a arrêté sa croissance psychologique. De telle manière qu'à 23 ans, il avait quel âge dans sa tête ? 15 ans. Ok, regardez maintenant. Un schéma intéressant. J'aime beaucoup. Les enfants, tu peux cliquer. Avant 10 ans, 12 ans, l'enfant grandit sans drogue, fait ses expériences, développe ses capacités sociales, intellectuelles, physiques, définit quelques projets. Il rêve d'être pompier ou je ne sais pas, de faire un métier. Et l'enfant, normalement, n'a pas touché à la drogue. Il rentre maintenant au collège. On y va ? Voilà, c'est le temps de l'expérimentation. C'est la première cigarette, c'est le premier verre de vin, c'est toutes ces choses. Mais ça peut être aussi un joint. Et là, il va expérimenter. D'abord, c'est un usage occasionnel. Et puis, ça peut être plus occasionnel que ça, plus du tout occasionnel plutôt, ça va être répété. C'est plus ponctuel, c'est maintenant habituel. Et il rentre dans la dépendance. On y va ? Et tout à coup, les parents découvrent la dépendance de l'enfant. Ils vont confronter l'enfant à cette dépendance. Et lui, l'enfant va refuser d'admettre sa dépendance et il va dire « je gère ». Quand un jeune vous dit qu'il gère, il ne gère rien du tout. Rien. Sauf que il veut vous apaiser. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire là. Et c'est ça qui est terrible. Pour nous parents, c'est ça qui est terrible. Parce que nous, on connaît les conséquences. On sait où ça va. Et on supplie l'enfant. Et on a l'impression que plus on supplie l'enfant, plus l'enfant dit il gère, et plus l'enfant va continuer dans sa drogue. La question, ça serait comment réduire le temps là? Comment réduire ce temps pour pas qu'il aille au fond du trou? Parce que c'est dangereux, il peut mourir. Hein, on est dans la vraie vie là. Et c'est de la drogue dont on parle. Et les overdoses, c'est pas pour les autres. Et donc nous, parents, on ne sait pas quoi faire. On ne veut pas qu'il souffre. Mais on est vraiment dans l'incapacité. On est dans l'impuissance, absolument dans l'impuissance. Alors que lui, il se croit dans la toute-puissance. Eh bien, on ne peut rien faire que de le laisser aller au fond du fond. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça? Hein? OK. Luc 15. Et le père était là. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Et nous, on est là, parents, on dit, mais eh oui. Et moi, je peux vous dire, on a eu nos nuits de prière, on a eu nos nuits blanches, on a eu nos pleurs. Ma femme m'a dit, mais va le chercher, il va. Et j'ai dit, non, non. Et donc, avec ma femme, ça n'allait plus, quoi. Parce qu'elle dit, mais toi, tu. Eh bien oui, c'est elle qui l'a porté. C'est elle qui était là et qui, elle souffrait tellement de voir ce garçon descendre. Et moi, j'ai dit, mais ça ne sert à rien. Alors évidemment, moi, je suis homme, je n'ai pas porté mon garçon. Il y a, la relation est différente. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'était terriblement difficile aussi pour moi, évidemment. Mais tant que le jeune, comme il l'a dit là, il ne touche pas le fond du fond, on ne peut rien faire. En France, je ne sais pas au Canada, mais en France, si un jeune veut aller dans une unité pour se faire désintoxiquer, il faut qu'il ait déjà arrêté. Les médecins savent que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et quand on y va, et quand il est là, il y a un déclic. Je souffre, il faut que j'arrête. J'ai besoin d'aide. Écoutez, laissez-moi juste. Vous avez quelques minutes encore? Patience. Luc 15. Prenons juste ça. Je ne vais pas vous faire une étude biblique. Mais dans Luc 15, on voit deux façons, les deux manières de. Comment je vais dire ça? Ce qui va. Opérer un changement. Deux manières d'opérer un changement. C'est lequel? Alors, c'est le fond, d'accord? Mais par rapport à quoi? À sa vie d'avant. Est-ce qu'il y avait du plaisir dans sa vie d'avant? Ben oui. Est-ce que la Bible parle du plaisir du péché? Oui. Hébreux chapitre 11. Que Moïse, fils de la fille du Pharaon, a préféré prendre l'opprobre du peuple plutôt que de vivre dans le plaisir du péché. Oh, vous ne me croyez pas? Hébreux chapitre 11, je lis en une seconde. Hein? Attendez. Moïse, c'est ça, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor. Donc il y a du plaisir, il y a du délice dans le péché, d'accord? Et là, le changement va s'opérer quand la souffrance est plus forte et plus puissante que le plaisir. Et là, tant qu'il a du plaisir, pourquoi changerait-il? Dites-moi, pourquoi changerait-il puisqu'il n'a que du plaisir? Il faut que la souffrance fasse son travail et que la souffrance soit si terrible qu'elle dépasse le plaisir. On est d'accord, hein, ça va là? Mais c'est grave. Hein. Pour nous parents, c'est intenable ça. Et pourtant, il n'y a rien d'autre. Enfin, personne ne connaît autre chose. La deuxième chose qui opère un changement, c'est l'amour. Quand le fils prodigue repart, le père vient à sa rencontre, il l'embrasse, il le prend dans ses mains, malgré sa puanteur, l'amène à la maison, et on pourrait se poser la question, ce n'est pas écrit dans la parabole, mais il a été rétabli dans son fils, sa position de fils, et maintenant, qu'est-ce qui va l'empêcher de repartir, puisque le père lui a tout redonné comme avant? Pourquoi il ne repart pas et refaire la même chose? Le souvenir de l'étreinte de l'amour du père. Le souvenir de l'étreinte du père et de son amour. Et pour vous et pour moi, c'est ce qui nous tient debout. On se souvient comment le père nous aime. Ok, on revient là. Il est au fond du trou, on y va? Là, il dit « j'ai besoin d'aide ». C'est là où, maintenant, il va y avoir le parcours du combattant, et on y va, avec des hauts et des bas. On peut revenir en arrière, là? On aime bien. Moi, j'aime bien ça, moi. On peut revenir en arrière? Voilà, vas-y. C'est des hauts et des bas. Pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça prend du temps. Il s'est démoli pendant des années, et maintenant, il y a une nouvelle construction à opérer. Reconstruction de la personne, identité, morale, résistance aux frustrations, tout est cassé. Alors qu'il aurait dû avoir, pendant toute cette construction, pendant toute son adolescence, eh bien, il faut tout refaire. Le jeune ne sait plus qui il est. Il n'a plus de résistance à la frustration, sa santé est déficiente, il n'a plus de capacité relationnelle puisqu'il s'est isolé et évidemment sa spiritualité, eh bien, elle est mise à mal. Hein. On continue? Et à ce moment-là, cette construction est en partenariat avec la famille ou avec un groupe social de soutien. Ok. On peut y aller? Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ici pour les jeunes? Eh bien, il faut informer les enfants, les aider à se développer, à gérer leurs émotions, être attentif à des symptômes de consommation. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, sinon de provoquer, attendre un déclic. Ben, provoquer, moi je dis, c'est inhumain. Vous n'allez pas prendre de la drogue, acheter un gros paquet de drogue, enfermer votre jeune aux toilettes et dire « devant moi, tu vas prendre toute cette drogue pour... » Comme ça, tu es allé au fond d'un coup et puis on va gagner des années, quoi. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Mais attendez, poser des limites quand même. Se protéger soi-même et protéger le reste de la famille. Parce que le jeune qui se drogue, il devient maintenant le centre de la famille et tout est dirigé par lui. Et les autres? Ils ne doivent pas vivre, les autres? Ils passent à l'as, hein, ils passent de côté. Parce qu'on est polarisé sur ce problème-là et nos émotions sont là, nous, parents. Ah non, protéger le reste de la famille. Et nous, en tant que couple, nous devons survivre. Vas-y.
Est-ce que ça peut impliquer la mise à la porte?
Ah, c'est moi, je l'ai fait. Il avait 19 ans. Je l'ai fait. Et il est allé dormir dans sa voiture. Il faisait ses études. Et j'ai dit non. Tu veux pas m'entendre. Tu te fous de nous. Tu es plus loyal à ta drogue, à ton produit qu'à nous-mêmes. Alors, non, pas dans notre maison. Et donc, il a passé 3 nuits dans sa voiture. Et il dit, je veux revenir. Je dis, ok, voilà un contrat. Et il a signé un contrat. Il a eu du mal, mais il a signé le contrat. Et il a suivi le contrat pendant un certain temps. C'est ça, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas. C'est, vous voyez ce que je veux dire? Il faudra avoir des nerfs. Hein. Il faut avoir des nerfs. Hein. Le parcours du combattant, proposer des adresses de centre, de thérapie, etc. Il faut une confronter dans la bienveillance, mais bien être clair nous-mêmes pour que l'enfant sente qu'il est en sécurité, le jeune sente en sécurité. Dans la reconstruction, il faut l'aider à régler les vieux dossiers, à affronter le quotidien. Je me rappelle qu'il ne voulait pas aller travailler, il était dans une profonde dépression. Et il voulait pas. Mais je l'ai réveillé, fous-moi la paix, va travailler si tu veux, je veux dormir. Non, tu vas te lever, tu vas y aller. Et finalement, il y allait, et c'est jour après jour, après jour, après jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut cette patience dans la bienveillance, mais on sait, il ne faut pas s'énerver, on sait qu'il est détruit, qu'il est déstructuré, et lui proposer des perspectives, l'avenir, le moyen terme, le long terme, accompagner, encourager, coacher, remotiver. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok, je crois qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. Écoutez, on va finir un petit peu. Vas-y, on va aller très vite là. Comment intervenir lorsque vous découvrez que votre enfant consomme de la drogue? Malgré tous vos efforts, tout ce que vous avez pu faire, pour l'aider à grandir sans drogue, vous découvrez que, bon, voilà, il s'est laissé tomber, il s'est laissé piéger. Alors, ou bien, vous allez... Nous, ce qu'on a découvert, c'est que, avec ma femme, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à en prendre conscience et qu'on a commencé à travailler sur le problème, on ne sait pas d'où les gens ont su ça, mais beaucoup de gens sont venus nous demander de l'aide. Alors, voilà, on y va. Voici quelques conseils pour intervenir, gérer ses émotions et obtenir de l'aide. On continue. Ne niez pas la situation. Qu'est-ce qui compte le plus? La vie de votre enfant ou le regard des voisins? Donc, on est dans la honte, on est dans la honte. Mais c'est comme ça, il faut accepter. Ça nous humilie beaucoup, mais on va travailler, on va continuer à vivre quand même. Refusez la culpabilité. Parce que vous allez vous remettre en question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça se passe? J'ai dû manquer quelque chose dans l'éducation de mes enfants. Et bien sûr, on est très prompt à se frapper la poitrine. Répétez-vous votre objectif. Provoquez chez lui un déclic qui le poussera à vouloir s'en sortir. C'est pas facile, c'est même voire impossible. Mais si vous trouvez par hasard quelque chose qui peut l'aider à prendre conscience de sa situation. Mais le père du fils prodigue, lui... Il a attendu. Hein. C'est quand même très parlant. Réaffirmez vos valeurs et vos principes. Les valeurs et les principes, c'est toi, on t'aime. Mais pas ta drogue, là, pas ton produit. On accepte, et puis, on n'accepte pas que tu te détruises. Voilà. Pensez à protéger le reste de la famille et votre couple. Soyez prêts à avoir des émotions contradictoires en dents de scie. Ah ben oui, un jour ça va, un jour ça ne va pas. Même pour vous, c'est une situation qui est là et qui va un jour s'arrêter quand même. Ne restez pas seul, rencontrez d'autres parents qui se trouvent dans la même situation, rejoignez un groupe d'autosupport ou un forum de discussion, contactez des associations de famille. On continue? Voilà. Écoutez, je crois que ces choses-là, on en a déjà parlé. On continue? Intervenir. Première étape, si votre enfant est au stade de l'expérimentation ou de la consommation occasionnelle, bien comprendre le pourquoi de sa consommation, faire appel à son sens de responsabilité et lui donner une chance de corriger le tir. Redonner de l'information sur les drogues, ça c'est quand même intéressant. Règles contractuelles, conséquences contractuelles. Qu'est-ce que c'est, ça veut dire ça? Ça marche souvent chez les adolescents. Règles contractuelles, c'est quoi? Un contrat. Ensemble, on fait un contrat. Avec un contrat, des conséquences. Essayez ça avec vos jeunes enfants. OK. Voilà, on fait un contrat à la maison. Et si on ne remplit pas le contrat, voilà les conséquences. Et vous faites ça dans un cercle de famille, dans une réunion familiale, c'est-à-dire vous en discutez entre vous, et il faut qu'ils adhèrent aussi aux conséquences. Laissez choisir les conséquences, mais c'est dans un contrat. Et ça, c'est très bon pour justement favoriser l'élaboration ou la construction du moteur de réalité à des conséquences, ou non, ou à des choix, il y a des conséquences. Hein. Voilà. Deuxième étape, lorsque la première étape n'a pas fonctionné malgré plusieurs tentatives, admettre qu'il est peut-être dépendant et que sa raison ne peut plus fonctionner face à la dépendance. Se protéger, provoquer, puis attendre le déclic. Règle imposée, conséquence imposée. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a le règle contractuelle avec des conséquences contractuelles. On l'a fait ensemble. Et puis là, maintenant, c'est nous qui imposons des règles avec des conséquences imposées. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait encore tout ça. Hein. Mais bon, je vous ai dit que j'ai essayé de ramasser, mais on va s'arrêter là. Demandez à un adolescent qui a décroché de la drogue d'en parler à votre enfant. Demain soir, je vais lire le témoignage de Kevin. Parlez aux éducateurs, aux animateurs de quartier. Identifiez les services de police en charge de la prévention et de la lutte contre les drogues près de chez vous. Discutez avec eux. Rejoignez, créez un groupe de soutien pour les parents qui sont dans le même cas que vous pour vous encourager et vous épauler. Et n'hésitez pas à entreprendre une thérapie familiale. Voilà. Je pense que ça, c'est très important parce que l'introduction de la drogue dans la famille change, modifie les relations au sein de la famille. On s'arrête là. Merci beaucoup. Et excusez-moi, c'était un peu long ce soir, mais voilà. Je vous en prie. Et donc, c'est Stéphane qui va avoir. Merci bien. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est que Stéphane va avoir le livre, le manuel qui va avec. Je vous demande de faire une copie pour vous, mais je vous demande de ne pas le mettre sur Internet, quoi. Voilà, je vous demande de ne pas...
Est-ce que le format qu'on va aller après réflexion, étant donné qu'il y a un manuel, ça sera décédé avec les fichiers MP3 pour l'audio, et puis le manuel sera sur le CD.
Sauf qu'on n'a pas le premier, quoi.
Non, le premier, c'est ça.
Mais bon... Ouais, ça peut.